Le journal Yves Decamp. Bonjour Yves.
Bonjour.
9 contaminations au coronavirus après des obsèques en Dordogne. Plusieurs dizaines de personnes s'étaient réunies au cimetière, ce qui reste interdit, y compris en zone verte. Le préfet du département a dénoncé un cas de relâchement du confinement. Des médecins qui signalent un cas de Covid et l'assurance maladie qui remonte au cas contact. Députés et sénateurs débattent du système d'information inscrit dans la future loi sur l'état d'urgence et qui pourrait renforcer également la protection des élus, notamment des maires, face au risque de poursuite. 60 stations de métro fermées à partir de lundi à Paris, des prises de température à l'embarquement dans les avions d'Air France. Chacun s'organise pour le déconfinement à Lyon. Le syndicat des transports veut privilégier la pédagogie. Dans ce journal également, Laurent Berger qui dénonce sur France Inter la posture irresponsable de la CGT sur le dossier de Renault à Sandouville où l'usine restera fermée lundi. Des parlementaires et des médecins européens qui lancent en ce 9 mai, jour de l'Europe, un appel à faire de la santé une priorité. Et puis l'invité du samedi 13h, candidat au prix du Livre Inter, aujourd'hui Fabrice Imbert, pour Le Monde n'existe pas, publié chez Gallimard. Enfin la météo, de l'orage dans l'air du littoral atlantique jusqu'au Grand Est.
France Inter.
Exactement ce qu'il ne faut pas faire en Dordogne, département en vert sur la carte du déconfinement. C'est un nouveau foyer de Covid qui vient d'être détecté. 9 contaminations confirmées à l'issue d'une cérémonie d'obsèques. La limite des 20 personnes avait été respectée à l'église. Mais plusieurs dizaines de personnes se sont ensuite réunies au cimetière. Le préfet de Dordogne a dénoncé un cas de relâchement du confinement. Faustine Calmel.
Pour dire au revoir à un homme d'une cinquantaine d'années emporté par le cancer, ses proches se sont retrouvés au-delà de la limite des 20 personnes autorisées. Sa mère venue du Portugal, de la famille de Suisse, tous regroupés donc fin avril, plusieurs dizaines de personnes en tout au cimetière puis à la maison. Mais mardi dernier, un premier cas de Covid-19 est détecté parmi les participants à ces obsèques, diagnostiqué par un médecin de Vers. L'agence régionale de santé lance alors son protocole, testé et tracé d'abord. 103 personnes, dont le maire d'église Neuve de Vers, y passe. Sur les 40 premiers résultats, 8 sont positifs. L'ARS passe alors à la phase 2, isolée. Ces 8 malades du coronavirus, cas asymptomatiques, en forme donc, sont priés de rester chez eux pour casser la chaîne de transmission du virus. Les analyses de 63 autres personnes testées devraient être connues au moins pour partie cet après-midi. À l'avant-veille du déconfinement, dans un département jusqu'ici peu touché, 10 morts depuis le début de l'épidémie et 25 malades hospitalisés actuellement. Ce nouveau foyer, c'est exactement ce que les autorités souhaitent éviter.
Faustine Calmel. Identifier les personnes infectées et informer leur entourage, c'est l'objet du fichier contact que prévoit la loi sur l'état d'urgence sanitaire. Un système d'information qui doit permettre de casser la chaîne de transmission du virus et que le Parlement doit valider d'ici demain soir. C'est l'un des points qui fait débat, avec aussi la responsabilité pénale des élus, notamment les maires, que certains voudraient pouvoir mieux protéger de toute poursuite qui serait liée à l'épidémie. La commission mixte paritaire chargé de mettre au diapason les députés et les sénateurs est en réunion. Ce matin, Élodie Forêt, un texte devrait finalement ménager la chèvre et le chou.
Oui, aujourd'hui, après une semaine de débats au Sénat puis à l'Assemblée, il s'agit de trouver un compromis lors de cette commission mixte paritaire qui n'est toujours pas terminée, avec un point sur toute crispation, vous l'avez dit, la question de la responsabilité pénale des décideurs. La droite sénatoriale qui avait fait voter un dispositif protégeant davantage les maires, les employeurs, les fonctionnaires accuse le gouvernement d'avoir imposé une réécriture du texte afin de pouvoir se dédouaner s'il était un jour mis en cause juridiquement sur la gestion de la crise sanitaire. Alors ce matin, après 2 heures de discussion, sénateurs et députés ont donc dû interrompre la séance pour de nouvelles négociations, pour trouver une bonne formule. Négociations toujours en cours. Si un accord est trouvé sur la responsabilité, reste à examiner les autres articles, avec a priori moins d'enjeux. La création d'un système d'information objet de l'article 6 ne devrait pas poser problème, les sénateurs l'ayant approuvé en première lecture. Une commission mixte paritaire qui, si elle est conclusive, ouvrira la voie à une adoption définitive du texte.
Élodie Forêt. Alors légiférer est nécessaire puisqu'il s'agit notamment d'étendre une entorse au secret médical qui jusqu'ici ne concernait que les personnes malades, de l'étendre aux personnes ayant été en contact avec un malade. Sans cette mesure, qui sera évidemment provisoire, il ne pourrait pas y avoir de traçage, pas de suivi épidémiologique. Mais ce n'est pas l'Armageddon ni Matrix, a notamment souligné le ministre de la Santé, Olivier Véran, à charge désormais pour les médecins d'informer l'assurance maladie qui pourra ensuite remonter jusqu'au cas contact, rien que de très normal finalement pour Jean-Paul Hamon, le président de la Fédération des médecins de France.
Il n'y a aucun état d'âme pour mettre sur le site de l'assurance maladie le nom du patient et ses coordonnées pour que le service médical, je répète bien, le service médical de l'assurance maladie qui est tenu au secret professionnel, contacte les personnes contaminées pour identifier les personnes contact et qu'on puisse les mettre en rapport avec leur médecin traitant pour qu'elles puissent être testées. Pour moi, c'est le baba du tracing de l'épidémie pour contenir l'épidémie. En 45 ans, j'ai jamais vu le service médical de l'assurance maladie trahir le secret professionnel. Ce sont des gens assermentés, ce sont des médecins ou c'est du personnel paramédical ou administratif qui est tenu au secret médical. Je comprends pas les états d'âme que je vois là sur Internet depuis un moment, de violation du secret professionnel, de délation, etc. Mais enfin, on met sur le site de l'assurance maladie des choses autrement plus sensibles que le Covid-19 et c'est pas une maladie honteuse, quoi. On aurait souhaité que le Covid-19 soit une maladie à déclaration obligatoire, comme l'est la rougeole, comme l'est la syphilis, comme l'est la tuberculose. Et puis l'affaire était close. Hein.
Le président de la Fédération des médecins avec Célia Quiret. Au chapitre économique, Laurent Berger versus CGT. Alors que l'usine Renault de Sandouville a refermé ses portes jeudi sur injonction de la justice, le tribunal saisi par la CGT avait jugé les procédures d'information des syndicats liées à l'épidémie insuffisantes, au grand dam de la plupart des autres syndicats, dont la CFDT et son secrétaire général, invité ce matin dont n'arrête pas l'écho sur France Inter.
La posture de la CGT, elle est irresponsable et infondée. Moi, je suis pour qu'on valorise le dialogue social de proximité et qu'on sorte des rapports de force stériles. La réalité, c'est que l'usine va rester fermée lundi, que les 700 intérimaires vont être renvoyés chez eux. C'est ça la réalité. Et donc, je crois qu'il faut arrêter ce type de pratique et qu'il faut plutôt favoriser le dialogue social. Et on voit bien que là, il y a deux attitudes syndicales. Il y a celles qui sont prêtes à tout pour stopper l'activité. Et c'est pas un service rendu aux travailleurs. Et je le dénonce. Et celles qui sont plus nombreuses à Renault, qui veulent négocier des conditions de reprise acceptables en toute sécurité. Et c'est ce qui avait été fait à Renault Sandouville. Et donc, cette fermeture obligée par le recours de la CGT est très, très grave.
Laurent Berger, ce matin sur Inter, avec Alexandra Bensaïd. Dans les difficultés attendues de la reprise lundi, les transports seront bien sûr en bonne place, en région parisienne essentiellement. Le port du masque, les distances, l'attestation de l'employeur aux heures de pointe, le respect des consignes sera contrôlé. Rien de tel à Lyon, où les voyageurs ont aussi des obligations, mais le syndicat des transports de l'agglomération a fait le pari du civisme et de la pédagogie, Christophe Vincent.
Certes, le masque va être obligatoire et vendu 4 euros dans 70 distributeurs du métro. S'ils n'en portent pas, les Lyonnais paieront l'amende de 135 euros, comme les Parisiens. Mais dans les rames ou dans les bus, on n'imposera pas une distance minimale entre chaque passager. Tous les sièges seront disponibles et non pas un sur deux. Les zones d'attente seront marquées sur les quais et les tramways s'arrêteront deux fois à chaque station pour la descente et pour la montée. Pour informer les usagers, l'exploitant affichera les consignes sur les rames et diffusera des messages sonores. 350 agents, dont des renforts du privé, seront déployés sur l'ensemble du réseau. Les habitués des transports en commun semblent assez sereins.
C'est plus souple et je pense qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. On est forcément un peu inquiet. Il n'y a pas le choix, il faut continuer à vivre.
Je vais le reprendre sans souci. Sans appréhension particulière, je vais mettre un masque. Et puis en respectant la distanciation sociale des 1 mètre, ça ne me pose pas de problème. Je suis infirmière en plus, donc moi le port du masque, ça ne me pose aucun problème. Bien au contraire. Il faut juste en trouver.
Lundi, l'exploitant promet d'assurer 85% du trafic, mais il table sur un tiers seulement de l'affluence normale, ce qui facilitera sa démarche civique. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Globalement, l'offre de transport dans les grandes agglomérations devrait atteindre les 70%, en rappelant qu'à Paris, 60 stations de métro seront fermées, soit un peu plus encore qu'aujourd'hui. La station République, par exemple, où 5 lignes se croisent, sera fermée. À Paris, d'ailleurs, beaucoup de Franciliens préféreront sans doute tenter leur chance en voiture. C'est pour eux qu'une trentaine de parcs relais seront accessibles gratuitement pour tous ceux, bien sûr, qui possèdent une carte Navigo. Une carte Navigo qui devra être chargée et leur domicile devra être situé à au moins 2 stations de métro du parc de stationnement. Et puis pour ceux qui prennent l'avion. Le port du masque sera bien sûr obligatoire. Air France annonce qu'en outre, des contrôles de température seront effectués sur tous les passagers qui ne pourront pas embarquer si le thermomètre infrarouge affiche plus de 38 degrés.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
Sortir plus fort de la crise sanitaire en ce 9 mai, jour de l'Europe, les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union veulent se montrer optimistes. Dans une vidéo publiée sur Twitter, ils s'expriment chacun quelques secondes, une ou deux phrases pour rappeler bien sûr à l'unité, l'ambition, la solidarité, à oser réinventer, pour citer Emmanuel Macron. Ce matin, par ailleurs, 21 parlementaires européens et professionnels de santé profitent de ce 9 mai pour appeler l'Europe à se saisir des politiques de santé. Johanna Hochstein nous appelle de Bruxelles.
Plus que d'autres, nous avons souffert de notre impuissance à soutenir les soignants et à les aider dans notre rôle de responsable politique. Ce constat, c'est celui de 21 parlementaires qui sont aussi des infirmiers, des gynécologues, des psychologues. Dans une tribune intitulée « Le Parlement européen doit entendre les applaudissements de 20 heures », ils appellent à ne pas reproduire les erreurs commises lors de la gestion de cette crise sanitaire. Guerre des masques, fermeture des frontières de façon unilatérale, une véritable entaille au projet européen, selon le parlementaire Dominique Riquet, médecin urologue.
Moi, je crois qu'on a perdu beaucoup, beaucoup en efficacité. On a perdu beaucoup en moralité, parce que bon, s'il y a des pays qui, par exemple, font des hold-up au passage sur des livraisons destinées à d'autres, s'il y a des pays qui font de l'interdiction ou du blocage d'exportation sur certains produits qui sont décrétés d'intérêt national, bon, c'est pas l'Europe, quoi.
Pour tirer les leçons de cette crise, les députés appellent à la création d'une nouvelle structure au sein du Parlement européen. Elle aurait par exemple un rôle de coordination en matière de transfert de patients d'un pays à un autre ou pour le développement de nouveaux vaccins. Pas sûr que ce transfert de compétences plaise à tous les gouvernements nationaux. Johanna Hochstein, France Inter, à Bruxelles.
À l'étranger, plus de 10 000 contaminations supplémentaires en Russie. Le plus grand pays du monde est aujourd'hui le 5e le plus touché par l'épidémie, mais la mortalité y reste relativement basse, avec moins de 2 000 décès, ce qui laisse planer un doute sur la véracité des chiffres. Ce matin, le président Poutine, par ailleurs, a rendu hommage aux 27 millions de morts de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre. Le 8 mai, on le sait, se célèbre le 9 en Russie. La Russie qui est invincible quand elle est unie, a souligné Vladimir Poutine. En Espagne, la décrue de l'épidémie se confirme. 179 décès en 24 heures, c'est la plus faible augmentation de ces derniers jours. Et puis en France, aucun cas de Covid à l'Olympique Lyonnais. Enfin, une bonne nouvelle pour le président du club, Jean-Michel Aulas. Toutes les joueuses et tous les joueurs de Lyon ont été testés et tous les tests se sont révélés négatifs. Ce que nous avons réussi en restant chez nous, continuons à l'appliquer sur la route à la veille du déconfinement. La sécurité routière s'inquiète d'une reprise massive de la circulation et d'un retour éventuel des mauvaises habitudes. D'autant qu'un certain relâchement a été constaté sur les routes ces deux derniers mois. D'où la campagne de sensibilisation qui sera lancée lundi pour appeler les automobilistes à la plus grande prudence. David Julliard, délégué adjoint à la sécurité routière, il est avec Yann Gallic.
Les transports publics collectifs vont être plus compliqués à utiliser. Et donc, la sécurité routière anticipe le fait qu'un grand nombre de personnes vont prendre soit un vélo, soit une automobile et qu'ils ont pas forcément toujours l'habitude de circuler dans ces conditions. On appelle vraiment à la prudence. On a constaté pendant ces presque deux mois des comportements tout à fait irresponsables d'un certain nombre d'automobilistes. On a constaté un niveau très élevé d'infractions graves au code de la route, notamment les vitesses excessives, les franchissements de feux rouges, les franchissements de stop sans marquer l'arrêt, aussi des accidents qu'on n'avait plus l'habitude de voir, des accidents d'une très grande gravité. Cette période a été, pour certains, une période de relâchement. Il faut absolument que l'ensemble des usagers de la route retrouvent un comportement responsable qui ne mette pas en danger la santé et la vie d'eux-mêmes et d'autrui.
Voilà, des accidents plus graves, mais dont le nombre a baissé forcément avec 40% de morts en moins sur les routes ces deux derniers mois. Allez, tous les samedis de ce mois de mai, rencontre avec l'un des auteurs en lice pour le prix du livre Inter. Avec vous, Eva Bétan, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, Fabrice Imbert, pour Le Monde n'existe pas, publié chez Gallimard, où la fiction et la réalité se mélangent.
Oui, Times Square à New York, ces panneaux lumineux géants et partout le visage d'un homme traqué. Une image qui crée la stupéfaction pour les narrateurs et qui renvoie chez lui à un autre saisissement, qui est relevé alors de l'éblouissement. Cet homme accusé de viol et de meurtre, c'est Ethan, la star du lycée, beau comme un demi-dieu qu'il avait choisi comme un ami, lui, le nouveau, le chétif, le marginal et qu'il avait sauvé. Par deux fois donc, Ethan a créé la stupéfaction. Mais que voit-on quand on est stupéfait? Peut-être est-ce une histoire de regard. Le livre se présente comme une enquête quasi-policière qui étonne, mais on va dans des zones moins assurées. Il s'agit d'aller par-delà les illusions, les représentations, les vérités officielles. Fabrice Imbert, en lisant votre livre, on a l'impression que l'apparence, l'illusion est devenue plus importante que la vérité. Quelle est la vérité?
Bonjour. Alors, quelle est la vérité? Là, je ne vais pas me lancer dans une réflexion sur le sujet, mais c'est que justement la vérité est extrêmement difficile à atteindre, et en fait dans ce livre elle n'existe pas. Pour le lecteur, il est quasiment impossible de savoir quelle est la vérité de cette affaire. Alors il est sûr que le journaliste Adam va s'engager dans cette enquête, mais lui-même finalement n'est pas un narrateur très fiable, et puis il est pris dans beaucoup d'illusions, il est pris dans les illusions de son adolescence, dans ses propres illusions, et puis dans une affaire qui le dépasse, où effectivement il y a énormément de mensonges et de fictions, puisque toute cette affaire pourrait n'être qu'une vaste fiction, qu'une vaste illusion, une énorme fake news.
Alors, Ethan, le jeune homme, donc quand il est jeune, il est la vedette du lycée, il est le roi du foot. Et en fait, au fil de l'enquête, vous dites, enfin, le narrateur dit, c'est un fantôme. Lui-même s'est plié à ce qu'on voulait qu'il soit, à cette illusion de la star.
Oui, ça a été la star du lycée, la star même un peu cliché, hein, le champion de foot, l'adulé des femmes. Et en fait, on découvre au fur et à mesure que ce champion a fait tout ça parce que oui, on attendait ça de lui, mais en réalité, lui-même était infiniment plus fragile que l'image qu'il donnait. Et il n'était qu'une image pour les autres. Et finalement, Adam, le narrateur, est toujours attaché à cette image. Il reste sur cet Ethan factice, cet Ethan illusoire, parce qu'au fond, c'est cet être-là qu'il a aimé, et pas le réel Ethan.
C'est aussi un livre sur l'adolescence. Et il y a une sorte de nostalgie et presque de tristesse qui court dans tout le livre, qui est il y a une sorte de moment fondateur qui se joue là, et l'adulte est toujours lié à l'adolescent qu'il a été.
Oui, c'est d'ailleurs assez curieux, parce que c'était pas mon intention première dans le livre, et pourtant c'est ce qui s'est dégagé au fur et à mesure. Une espèce de retour de l'adolescence, de ces moments fondateurs qui font de vous l'adulte que vous êtes plus tard, mais qui court toujours en quelque sorte 10 ans, 20 ans après, puisque là on est à peu près 20 ans après l'adolescence du narrateur. Et pourtant tout est encore là, tout est encore présent, et il a l'impression qu'il ne peut pas échapper à ce qu'il a été durant son adolescence.
Il y a aussi toute une partie du livre qui est consacrée aux faits divers. Comment les médias, notamment, choisissent une version du fait divers? Vous dites, pour la victime, l'appeler la petite fiancée de l'Amérique, c'est une obscénité. Comme s'il fallait un récit, et ce récit devient plus important que tout le reste.
Oui, ça c'était la partie, je dirais, la plus consciente du livre pour moi, à savoir que tout devient une gigantesque fiction. C'est-à-dire que, bah, effectivement, les médias, mais aussi les entreprises et nous-mêmes, lecteurs, spectateurs, nous faisons de la réalité une immense fiction. Notre vie devient un film, en quelque sorte, et la société entière devient une espèce de projection fantasmatique, à demi hystérique. Bon, je crois que c'est quand même ce qu'on vit beaucoup, un peu tous, notamment actuellement, avec l'impression que le monde n'existe pas, que tout est une projection généralisée. Et effectivement, le narrateur est en but à ça, c'est-à-dire que il a l'impression que tout est illusoire, que notre Notre vie est un film et que l'affaire aussi dans laquelle il se lance est également une illusion et un film. Il a énormément de mal à départager la fiction de la réalité et avec lui le lecteur. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il a l'impression d'avoir trouvé une vérité intangible, eh bien, tout d'un coup, la vérité se dérobe et c'est encore une autre possibilité qui apparaît aux yeux d'Adam comme aux yeux du lecteur.
Donc, merci.
C'est une espèce de mise en doute généralisée.
Merci beaucoup, Fabrice Imbert. Tout ce que nous vivons est un livre ou un film, ou un film, voilà, c'est l'une des phrases de ce livre et qui le résume parfaitement. Le monde n'existe pas, publié donc chez Gallimard. Fabrice Imbert, en lice pour le prix du Livre Inter. Merci à vous aussi. Eva Bétan, bien sûr, le temps.
La météo, avec la Fondation de France, la PHP et l'Institut Pasteur, qui unissent leurs forces pour aider les soignants, les chercheurs et les personnes vulnérables. Tous unis contre le virus sur fondationdefrance.org.
Jean-Michel Golinski.
Il y a de l'orage dans l'air, des orages plus répandus cet après-midi de la façade atlantique en allant vers le bassin parisien, le Grand Est et le Centre. Des ondées vont émailler le ciel voilé de l'Est du Rhône. Dans le Golfe du Lion, des nuages bas vont s'accumuler en soirée. Enfin, le temps le plus sec et calme cet après-midi sera pour les Hauts-de-France, du Haut-Languedoc à l'Auvergne et sur la Franche-Comté. Le tout dans des températures affichant en dehors des orages, des valeurs pratiquement identiques à celles d'hier, de 20 à 23 degrés des Charentes à la Bretagne, le long de la Manche et près de la Méditerranée, jusqu'à 28 degrés dans le sud-ouest et en Auvergne-Rhône-Alpes. Demain, hormis près de la Manche, la situation va rester vraiment très orageuse, avec de fortes averses, parfois de grêle, et de très fortes quantités de précipitations, notamment au sud de la Garonne et du Golfe du Lion à la région PACA, également sur la Corse.